Bonjour Mathieu.
Salut.
Est-ce que tu peux nous expliquer ta fonction au sein de Westrack?
Ma fonction, c'est directeur des programmes. Donc, je m'occupe globalement un peu de tout le projet, côté administratif, les dossiers, la gestion de l'équipe. Je m'occupe aussi de la programmation musicale. Donc, j'ai aussi cette autre casquette. Et puis, en fait, je fais en plus de l'animation d'antenne. Je fais entre 2 et 5 heures par jour d'animation d'antenne, plus une émission le week-end sur les sorties musicales, plus faire tourner un peu toute la boutique.
D'accord, et est-ce que tu sais en quelle année a été créé Westrack?
Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on a démarré en 2014. Ça part à la base de bénévoles qui évoluaient au sein de l'association Papas Productions, le Tetris Festival Westpark. Enfin, ça générait déjà pas mal de bénévoles. Et puis, dans le cadre du Festival Westpark, donc qui a lieu au Havre tous les ans depuis 2004, il y a toujours eu plus ou moins un projet de radio en filigrane, une web radio temporaire sur l'événement pour faire des interviews d'artistes, faire un petit peu d'animation sur le site et autres. Et à partir de 2014, en fait, on s'est dit, comment ça fonctionne le système des ondes hertziennes? Comment on pourrait émettre sur la FM? Et moi, je me suis un petit peu penché sur le sujet. Donc, il y avait déjà en fait des gens qui étaient motivés. Il n'y avait pas de radio sur le Havre de type radio associative avec une programmation musique actuelle et des bénévoles qui pourraient faire eux-mêmes leurs émissions. Donc, on a commencé à se pencher sur la question. On s'est rendu compte en 2014 que c'était pas si compliqué que ça de demander une fréquence. Temporaire du moins. Donc on l'a fait sans trop de conviction en plus à l'époque et on s'est retrouvé avec une acceptation par le CSA de cette fréquence temporaire, ce qui nous a mis dans une position tout à fait rigolote parce que en fait on avait fait le dossier un peu en pensant qu'il allait être refusé. Donc on n'avait pas hyper anticipé le démarrage en 2014 et quand on a reçu la réponse c'était 10 jours avant qu'on démarre donc il a fallu qu'on improvise une radio, qu'on trouve un émetteur, une antenne et on a réussi à faire cette première session de radio en 2014. Et ça a été 15 jours uniquement, et 15 jours un peu folle, c'était hyper cool, on était vraiment en mode, je dirais pas 24-24 à la radio, mais quasiment. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait réfléchir le projet pour qu'il soit un peu moins éphémère. On a commencé à demander de plus en plus de fréquences temporaires. En 2017, on a réussi à faire 6 mois de FM. Et puis à ce moment-là, on a commencé à rester sur le web parce qu'avant, on était aussi sur le web, mais que quand la radio fonctionnait en FM. Et à partir de 2017, on a commencé la radio comme si on était une radio permanente toute l'année. Est arrivé en 2018 l'appel à candidature pour les fréquences DAB+, donc radio numérique terrestre sur le Havre. On a postulé et on a eu l'honneur d'être sélectionné. Et donc depuis le 1er octobre 2019, on est devenu radio permanente. Donc c'est important, c'est une étape importante pour notre projet, mais aussi pour la reconnaissance de notre média. Et c'est parti depuis 2019, on s'amuse comme des petits fous.
D'accord, et pour les auditeurs, est-ce que tu peux leur expliquer ce qu'est une fréquence DAB+?
Tout à fait. Alors, la radio, jusqu'alors, on a connu plusieurs formats et plusieurs emplacement d'ondes sur le spectre, c'est-à-dire qu'avant, on parlait des grandes ondes ou des ondes courtes ou des ondes moyennes. Il y a eu pas mal de radios, il y a encore pas si longtemps que ça, qui émettaient sur ces formats d'ondes. Donc, je parle vraiment d'ondes, c'est très physique, hein, c'est des hertz, des kilohertz, des mégahertz. À partir des années 80, on a commencé à créer une nouvelle bande de fréquence, enfin, créer, en tout cas, utiliser une nouvelle bande de fréquence pour la FM. Donc, on connaît encore de nos jours qui va de 87,5 MHz à 108 MHz. Et ça reste un mode de diffusion analogique qui était le même que la télévision analogique telle qu'on l'a connue avant les années 2000. Et la radio est en train d'engager sa mutation numérique, là, comme la télé l'a fait au début des années 2000, en passant de télévision analogique à TNT. Et ben la radio est en train de faire ce changement en ce moment avec du coup le passage à la radio numérique terrestre, la RNT, qui a pour slogan international DAB+ pour Digital Audio Broadcasting. En fait, le DAB+, c'est une autre bande de fréquence. Donc, on est au-dessus de la FM. Ça va de mémoire de 147 à 230, un truc comme ça. Globalement, les radios sont... le signal audio, en tout cas, est numérique, donc il y a moins de pertes au niveau du son. Il y a beaucoup plus d'emplacements pour des radios, parce qu'en fait, si la mutation a été engagée, c'est aussi parce que il y a plein d'endroits en France, il y a plein de zones, et nous, le Havre, c'est un peu le cas, où il n'y a plus de fréquences FM attribuables. Du coup, il ne peut plus y avoir de nouveaux arrivants. Le DAB+ permet effectivement de pouvoir... avoir de nouveaux arrivants, on peut recevoir plus de radios, il y a plein de radios nationales qui vont pouvoir se développer sur des zones où elles n'y étaient pas. Meilleure qualité, plus simple pour les auditeurs, il n'y a plus de système où on tourne une molette pour trouver sa fréquence, là on scanne, on sait toutes les radios qui sont disponibles sur notre zone, on peut ajouter des données associées, des images et même des petits slideshows, des petites animations sur les récepteurs DAB+, du coup, qui sont équipés d'un petit écran, donc voilà, un peu plus de contenu, des données associées, comme on dit. Le seul inconvénient, c'est que ça nécessite que les gens s'équipent et aient un récepteur, du coup, qui soit compatible DAB+, parce que s'ils ont qu'un récepteur FM, comme un autoradio, par exemple, bah, ils pourront pas accéder à la bande de fréquence sur laquelle le DAB+ émet. Ce qui était le cas de la télé au début des années 2000. Les gens ont dû acheter soit des petits décodeurs en attendant que les télés soient nativement équipées de la TNT. Et ce qui va arriver avec la radio dans quelques années, puisque là, en fait, vous n'êtes plus censé pouvoir acheter en magasin un équipement qui reçoit la radio sans qu'il soit équipé de DAB+, que ce soit une chaîne IFI, un poste pour sa cuisine ou même une voiture. Maintenant, tous les autoradios sont obligatoirement équipés de DAB+. Et évidemment, nous, comme on est dessus depuis maintenant un an et demi, on veille, dès qu'on sait qu'on a quelqu'un dans notre entourage qui change de voiture, on lui dit « vérifie bien qu'on te vend pas un vieux poste qui sera périmé dans quelques années, mais qui soit bien équipé DAB+. »
D'accord. Est-ce que vous avez des émissions, on va dire, assez connues dans votre radio ?
Oula ! aucune idée. Ouais, on sait qu'on a des programmes qui sont plus... réécouter que les autres parce que nous on a une politique de podcast vraiment où en fait tout ce qui est diffusé, tout ce qui est produit sur la radio est après disponible en podcast quasiment instantanément après sa diffusion, c'est retrouvable sur notre site, c'est partagé après sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, bref on peut nous écouter un peu partout en réécoute. Et on voit bien qu'on a quelques émissions qui sont un petit peu plus écoutées que d'autres, notamment une émission de jazz qui s'appelle l'Instant Jazz, où il y a souvent des invités assez cool de la scène jazz française actuelle. Donc on sait bien que, on voit bien que les stats d'écoute sont assez importantes. Et étonnamment, en fait, les émissions qui sont le plus réécoutées et le plus podcastées sont les chroniques qu'on fait. Les chroniques, alors je dis les chroniques, c'est ma collègue Tiffen, elle réalise pas mal de petites séries sur l'astronomie, sur la mythologie grecque, des choses comme ça qu'elle tourne un peu de façon humoristique. Et ces chroniques-là sont carrément écoutées. Mais je pense que c'est le format qui veut ça. C'est court, c'est moins de 10 minutes, c'est facile à écouter et c'est facile à réécouter. Après, des émissions un peu célèbres, bon, c'est un peu compliqué de pouvoir faire une sélection parce que si j'en choisis une plutôt que l'autre, je pense que les bénévoles vont me tirer la tronche.
Comment la radio supporte la musique locale ?
Alors nous, ça fait un peu partie de notre ADN, puisque à la base, la radio, elle est portée par une asso qui soutient la musique locale depuis 97. Donc en fait, ça a toujours été vraiment au cœur de notre projet. Nous, évidemment, on fait pas mal de focus sur des artistes de notre territoire, donc globalement, l'agglomération havraise un peu étendue. Dès qu'il y a un peu d'actualité discographique, on va les recevoir en interview, on va parler d'eux. On a évidemment une playlist, au cœur de notre playlist, en tout cas, il y a plein d'artistes normands, parce qu'on voit un peu plus large que le Havre. Il y a pas mal d'artistes normands, et nous, on force dans notre playlist, dans notre programmation, toutes les heures, on est sûr qu'il y a au moins un artiste normand qui sera diffusé. Voilà, c'est pas forcément... On n'a pas d'heure dédiée à la scène locale, par exemple, mais on force notre logiciel de diffusion à ce qu'il y ait au moins un artiste normand par heure. Après, on est aussi sur les événements locaux, les festivals. On avait une émission de live il y a encore quelques temps qui est un peu en stand-by là, vu les conditions sanitaires. Mais ouais, on essaye d'être vraiment, en tant que radio musicale, on essaye d'être un peu à la pointe de ce qui se fait en termes de musique un peu partout dans le monde, mais aussi, bien évidemment, sur tout ce qui se passe en local.
Très bien. Est-ce que tu te souviens de la première musique que vous avez diffusée avec Westrack?
Absolument pas. Allez, je dirais le premier son qui est sorti, ça devait être peut-être le générique de Star Wars ou quelque chose comme ça, puisque la première fois qu'on a émis, c'était une émission d'inauguration, donc pour marquer le coup, on a dû mettre une musique un peu épique. Mais non, la première vraie programmation musicale, non, je ne m'en souviens absolument pas.
D'accord, pas de souci. Quel est ton souvenir le plus marquant à la radio ?
Waouh, il y en a pas mal. On a fait pas mal de trucs, j'ai des souvenirs marquants, mais que je peux pas forcément révéler avec des invités parfois prestigieux qu'on fait des boulettes à l'antenne qui pensaient qu'ils étaient plus en direct et en fait ils étaient encore en direct. Donc ça a créé des espèces de moments de flottement à l'antenne qu'on peut pas réécouter. Il y a que les gens qui ont écouté en direct qui ont pu entendre ces boulettes-là puisqu'on a effacé certaines boulettes de certains podcasts. Et puis après, j'avoue que c'est un peu tout le temps. Il y a un nouvel événement marquant qui arrive. Là, par exemple, depuis quelques semaines, on est en direct du volcan, la scène nationale du Havre, qui est occupée depuis le 16 mars. Et on a décidé d'installer nous un autre studio de radio là-bas. Donc tous les midis, on va faire une émission parce qu'on soutient l'occupation des lieux culturels qu'il y a lieu en ce moment. Et là, en fait, dans le cadre de ces émissions, on a reçu plein d'invités, parfois des témoignages hyper touchants, parce que l'idée, c'est vraiment de mettre en avant toutes les luttes qui ont lieu sur le territoire du Havre. Donc, ça peut être des entreprises qui ferment. On a reçu les étudiants il y a quelques jours. Mais on a reçu aussi Little Bob, qui est un peu notre gloire locale. Enfin, voilà, en fait, ça, c'est, on va dire, un peu le dernier événement marquant qui se déroule en ce moment. C'est ces émissions en plein cœur de la lutte et de l'occupation qui font que ça donne aussi une nouvelle couleur un petit peu à la radio.
Pourquoi est-ce qu'il faudrait écouter Westrack selon toi ?
Parce que on passe de la super musique et en plus je pense que la plupart des titres qu'on diffuse vous les connaissez pas encore, donc ça peut valoir le coup de jeter une oreille dessus pour se faire un avis. On parle de la vie locale, donc si vous êtes dans le coin du Havre et autres, c'est un moyen de rester informé. Et puis on est plutôt sur l'information positive, donc on est plutôt sur des assos qui font des trucs cool, des événements culturels, même si en ce moment il y en a un petit peu moins. On est vraiment sur ce créneau-là. Et puis on essaye d'avoir vraiment, nous radio locale, c'est pas un terme usurpé, quoi. On est vraiment une radio de proximité. On n'a pas du tout de perspective d'expansion. Ça nous intéresse pas d'aller les mettre ailleurs que sur notre zone, parce que on a envie de parler d'une zone où on est, où on habite et qu'on connaît un petit peu, même si on découvre ses richesses un peu tous les jours. Et puis je pense que l'écoute est assez agréable parce que il y a quasiment pas de pub, il y a quasiment pas de publicité à l'antenne, et que voilà, ça peut faire un peu la différence avec certains programmes nationaux que moi-même je peux écouter pour m'inspirer. Qui au bout d'un moment deviennent assez insupportables à cause des boulevards de publicité qu'ils sont obligés de passer pour leur modèle économique. Donc, je dirais, si vous aimez découvrir de la musique, que vous êtes un peu en mal de découverte, branchez-vous sur Westrack, vous n'entendrez pas deux fois le même titre en une seule journée. Si vous avez envie de savoir et d'entendre un peu tous ceux qui font vivre le Havre en ce moment, c'est aussi ici que ça se passe. Et puis voilà, on essaye aussi toute la journée, on est à l'antenne, on anime, mais on essaye de ne pas être trop intrusif pour que ça puisse être une radio que tu écoutes en travaillant, en conduisant, en faisant ce que tu veux. Du coup, il n'y a pas trop d'émissions en journée entre 9h et 17h pour que ça puisse être une radio d'accompagnement aussi.
Que signifie le média radiophonique pour toi maintenant ?
Grande question. j'ai combien 4 heures ? Non. Je sais pas ce que ça signifie. Moi, en fait, je suis d'une génération où la radio, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup la radio. C'est le début des radios libres. Donc, le soir, j'écoutais Fun Radio, j'écoutais Skyrock à la grande époque de Max et autres. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été fidèle à la radio. Après, au fil du temps, j'ai évolué, j'ai écouté d'autres radios. Moi, je pense que c'est un média qui malgré le fait, et c'est déjà des réflexions qu'on a entendues, nous, en local, de nous dire que la radio était un média du siècle dernier, que voilà, c'était plus ça maintenant, c'était les réseaux sociaux, c'était YouTube, c'était ça maintenant sur lequel il fallait aller. Ben, moi, je demeure persuadé que la radio reste un média important pour les Français. Alors, effectivement, il y a peut-être des disparités au niveau des tranches d'âge, mais on a pu voir notamment à cause, grâce à la crise sanitaire, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, on a pu voir que la radio était bien souvent le premier média sur lequel on se connecte quand on a envie d'avoir une information fiable. Et c'est vrai que ça fait partie d'études aussi qui sont faites sur la fiabilité des médias. La radio demeure encore, à l'heure actuelle, une source d'information fiable. Et puis après, je trouve que la radio, contrairement à la télé, c'est pas la même chose. On peut écouter la radio et faire autre chose en même temps. Et c'est bien, d'ailleurs, ça, c'est souvent comme ça qu'on écoute la radio, c'est que on écoute la radio, on est en train de cuisiner, on est en train de prendre sa douche, on est en train de conduire, on fait des choses. La télé, c'est plus hypnotisant, ça capte plus les gens, et du coup, moi, j'ai moins de rapport avec la télé, par exemple. Et je pense que la radio a encore de beaux jours devant elle, en fait. Je pense que il y a un certain modèle de radio qui commence à s'essouffler, et on le voit bien dans les sondages nationaux qui paraissent tous les 6 mois, où on s'aperçoit qu'il y a un peu une baisse des auditeurs globalement. Mais je pense qu'il y a des nouveaux modèles de radio, et je pense que les gens sont de plus en plus en recherche de médias locaux pour vraiment qu'on leur parle de leur quartier, qu'on leur parle de ce qui se passe dans leur rue, qu'on leur montre qui sur leur territoire sont des forces vives, plutôt que des grosses radios nationales où l'information est très généraliste. Je pense qu'il y a une tendance là qui est en train de se jouer, qui est peut-être bénéfique pour nous d'ailleurs, mais une volonté de retourner vers des médias très très locaux.